Bien, bonjour. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité, même si ça se place dans une sorte de saut dans l'espace-temps pour moi, puisque je dois enchaîner avec un second colloque qui porte sur l'histoire du punk tout à l'heure à la Philharmonie. Mais je remercie Benjamin de m'avoir invité, parce que ça fait partie de ces temps un petit peu pour moi de respiration. Assez régulièrement, on me demande de réfléchir sur le bijou depuis maintenant 15 ans. Et du coup, c'est des choses que j'arrive au fur et à mesure à rattacher aux autres travaux que je mène par ailleurs. Et là, je vais la question qui se pose, c'était de réfléchir à la question du trouble, en fait. Qu'est-ce qui peut troubler? Qu'est-ce qui peut être troublant? Et il se trouve que dans le cadre de mes recherches, j'ai travaillé sur ce qu'on peut appeler des mondes troublants, mais des mondes troublants pas parce qu'ils sont troublants en soi, mais parce qu'ils troublent. Ils troublent la perception sociale, l'environnement, on va dire les personnes. Normal, normalisé, et puis par exemple, au même titre que les bouffons tout à l'heure allaient jouer un rôle et allaient perturber l'ordre social, et bien là, on va voir que les pratiques dont je vais parler, je vais parler de pratiques d'ornement, s'inscrivent dans une histoire, et donc je vais avoir deux approches. Une approche plutôt historique, mais sur une quarantaine d'années, et donc l'histoire très récente, on pourrait dire l'histoire du temps présent, et puis une approche anthropologique. C'est-à-dire que j'essaye de mener les deux de pair, à la fois saisir la genèse des phénomènes et leur transformation, et puis après, bien sûr, le sens qu'ils prennent, les valeurs dont ils sont investis, etc. Et parmi... donc vous avez déjà vu des choses là derrière, hein, des épingles à nourrice, des crêtes de punk métallique, des bijoux au téton, donc des choses qui sont, en fait, qui sont aujourd'hui, je dirais pas admises, mais connues, mais qui ont émergé très récemment. Et notamment, je vais partir pour essayer de comprendre ce qui va troubler et comment ce trouble va se déplacer, parce que les choses évoluent contextuellement. Je vais parler d'abord deux innovations corporelles qui arrivent dans les années, fin des années 70, l'épingle à nourrice et la crête. Et ceci est en concomitant d'une autre apparition, d'un autre phénomène, deux phénomènes qui coexistent. Alors, pas au même endroit, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que culturellement, il y a des choses qui vont se faire. Alors, en Angleterre, et là, je parle des punks anglais, notamment les Sex Pistols, et puis tout ce qui va tourner autour d'eux, le Bloomley Contingent, qui est un groupe de fans, en fait, qui tourne autour de la scène des Pistols. Et puis, sur la côte ouest américaine, à Los Angeles, la création de la première boutique de piercing par Jim Ward, la boutique Gauntlet. Et donc, à partir de ces axes que je vais décliné jusqu'à aujourd'hui, je vais essayer de discuter autour de trois idées, en fait, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler sur le trouble. Trois idées. D'abord, le trouble lié à l'intime, à l'usage intime du bijou, et le trouble qui résulte du passage de l'intime au public, au visible. Donc ça, ce sera le premier axe. Le second axe, donc, qui en découle, ça va être le trouble du visible, on pourrait même dire du trop visible, ou du visible autrement, ou du visible de manière tellement surprenante que ça en devient troublant. Et puis, je terminerai par ce qui pourrait s'apparenter au trouble du dedans, c'est-à-dire le trouble qui renvoie à un usage du bijou qu'on ne voit pas, mais qui est porté à l'intérieur du corps, les implants. Alors, ces pratiques troublantes, historiquement, elles le sont, et puis elles le sont encore aujourd'hui. Hein. Ça m'arrive de faire des conférences où parfois les gens sont troublés par ce que je raconte ou par les images que je présente, alors que pour moi, elles sont complètement banales maintenant. Mais ça renvoie aussi à l'apprentissage de quelque chose qui m'a troublé à un moment, mais qui aujourd'hui est complètement intégré à ma perception du monde. Alors, on va s'éloigner des dandies, quoique, on verra, hein, mais il y a des façons d'exprimer son dandisme parmi les personnes que je connais qui sont peut-être pas là, mais il y a une forme de dandisme qui utilise aussi ce travail de transformation de l'apparence. Alors, pour commencer, on est sur la côte ouest américaine, on est à Los Angeles. Jim Ward, qui est ce vieux monsieur aujourd'hui, mais qu'il était plus jeune en 75, forcément, il y a 40 ans, mais il crée la boutique Gauntlet. Et cette boutique Gauntlet, c'est la première boutique du piercing au monde. Avant cette boutique, le piercing existe, mais le piercing n'est pas organisé en circuit commercial. Il reste dans l'underground. Et Jim Ward, il a cette caractéristique qu'il est le premier à monter cette boutique de piercing. Mais c'est quelqu'un qui est sur la scène gay sadomasochiste. Et finalement, le piercing et la boutique Gauntlet commencent à s'instituer autour d'une pratique complètement intime, puisque ça renvoie aux gens qui jouent, qui ont des jeux sadomasochistes, autour des piercings génitales. Donc on est vraiment sur des jeux sexuels, mais qui vont devenir des pratiques d'ornement. Et vous avez là, j'ai pris, alors, vous voyez, 75 la boutique, 77 c'est la création du magazine PFIQ, donc le magazine qui va faire connaître le piercing en dehors de Los Angeles, puisqu'il va se diffuser progressivement dans les contre-cultures. Mais vous voyez bien que là, c'est un numéro de 77, numéro 7, où on voit qu'il y a déjà un homme très tatoué, et un homme avec déjà une ornementation génitale. Et puis, même chose, alors les images ne sont pas très claires, mais on a une femme avec des piercings sur les tétons, et puis un corps très tatoué. On est en 77. 77, 78, 79, à une période où ce type de pratique est complètement novatrice, en tout cas secrète. Je ne développe pas plus, ce qui empêche quand même que ça interroge. Vous avez peut-être connu la vidéo de Mapplethorpe, le photographe qui se fait percer le sein. Il se fait percer le sein, il y a toute une ritualisation, il y a une vidéo qui est bien sûr qui se diffuse sous le manteau, mais c'est un moment où justement le fait de se percer les seins ou de se percer les parties génitales est quelque chose de complètement transgressif. Là, vous avez une radio qui est prise de Bob Flanagan. Bob Flanagan, qui était l'artiste qui se faisait appeler supermasochiste, alors que vous voyez, il a les poumons pleins de mucus parce qu'il souffre de mucoviscidose. Mais vous voyez, cette photo de sa radio fait partie intégrante d'une exposition qu'il avait faite à Los Angeles ou à Santa Monica, où là aussi, le fait de montrer ses piercings, de les afficher, même si c'est sur une radio, c'est quelque chose d'extrêmement transgressif. Et puis plus récemment, là, vous voyez, là, c'est une photo des années 99-2000. C'est 2000 cette photo, un piercing de Lucas Pira, qui est donc un des body artistes français avec qui j'ai travaillé. Et encore une fois, vous voyez, 2000. Donc là, je fais des dates à chaque fois parce que c'est important d'avoir 2000. On a un nombril percé. C'est le nombril de Ralph, qui est un des premiers perceurs européens, qui est à Fribourg en Allemagne. Et c'est avant qu'on voit Britney Spears, c'est ça, le nombril à l'air avec le nombril percé. C'est en 2000 aussi, mais vous voyez, il y a entre le 2000, le nombril de Britney Spears qui va s'afficher, qui va déclencher une mode, et puis ce nombril transgressif, souterrain, qu'on va montrer uniquement dans les performances ou entre personnes initiées, il y a quelque chose qui est dans ce passage. Et rappelez-vous, peut-être en 2000, les personnes les plus âgées, qu'en 2000, quand les mamans voient des jeunes filles se percer le nombril, ça les inquiète beaucoup pour leurs propres jeunes filles. Pour leur propre fille. Hein, c'est pourvu que ma fille échappe à ces barbaries. Alors, quand même, ces innovations, bon, ça se crée, ça se perpétue. Ça ne veut pas dire que c'est nouveau. Ça veut dire simplement que ça va se transformer. Et ça va peut-être, d'une certaine manière, se normaliser. Et je prends une photo de Stanley Kubrick, une vieille photo que je trouve remarquable. Une photo de la fin des années 50. C'est un homme qui, en fait, c'est un homme de cirque. C'est un homme de foire. Mais vous voyez, le piercing au téton, c'est pas quelque chose qui a été inventé, donc c'est pas. Vous voyez, chronologiquement, ça n'a pas besoin d'être institué, ça n'a pas besoin de passer par la mode pour que ça soit une pratique déjà connue et déjà documentée. Le passage de l'intime au public, on a une photo qui est dans le catalogue Medusa, une photo d'Annie Sprinkle qui elle-même est sur la côte ouest américaine. Enfin, c'est pas. Elle est entre San Francisco et Los Angeles. Elle est activiste porn activiste, elle est prostituée, elle travaille sur le corps et elle va aussi documenter ses pratiques. Ces pratiques qui sont des pratiques qu'on ne montre pas. On ne les montre pas encore, en tout cas on les montre. Là j'aime beaucoup ce passage. La cravate, l'homme de bureau qui va tout d'un coup, quand il ouvre sa chemise, on découvre quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable, de l'irreprésentable. Et le visible, alors ouais, on passe de la côte ouest à l'Angleterre, c'est au même moment. Hein. Ça, c'est 76, 77, 78, c'est fini les Pistols. Donc on est à un moment où tout d'un coup quelque chose va se jouer. Et là, j'ai pris. Alors, on parle des épingles à nourrice, on dit que c'est les Pistols qui les ont introduites. Néanmoins, là, on n'a pas d'épingles à nourrice, on a une lame de rasoir et un trombone. Mais l'idée est là. L'idée est là. L'idée est d'utiliser des objets pour en faire des bijoux de façon là aussi complètement farfelue. On n'utilise pas une épingle à nourrice pour se mettre dans les oreilles ou dans les joues. Mais c'est quelque chose qui va déclencher une manière de s'afficher et de créer un style. Alors, j'ai pris des photos de la même époque, justement. On est début des années 80, la fin 70, début 80. Et on voit tout de suite que c'est quelque chose qui va enclencher une manière d'utiliser l'objet pour créer des bijoux qui ne sont pas considérés comme tels. C'est tout sauf des bijoux. C'est laid, c'est moche, c'est repoussant par rapport aux propos de l'époque. Mais c'est quelque chose qui va avoir un sens très fort en termes de transgression. Et puis, on va pouvoir jouer. Autre image, qui est d'ailleurs, celle-là, on l'a publiée, je crois, Ben, dans le bouquin qui a été fait aux États-Unis là, sur les bijoux. Tu te vois pas le bouquin jaune.
Ah oui, non, c'est
contre la voilà, ok. Ben, il me semble qu'on a, on a publié cette photo. Où là aussi, on voit une façon, finalement. Là, c'est Ron Athey qu'on va. Qu'on a, alors, Ron, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu sa poitrine, c'est lui. Ouais, donc, c'est quelqu'un qui est, il est à la fois punk, il est à la fois dans les pratiques, justement, de piercing. Et il va jouer. Vous voyez, il joue, là, par exemple, c'est, il joue avec des chapelets. Dans les deux cas, c'est un chapelet qui relie son oreille à la boucle d'oreille qu'il porte dans le nez. Donc là, il y a un détournement des objets ordinaires. Le chapelet, ce n'est pas du tout, du tout un hasard. C'est quelqu'un qui est en rupture avec, la, avec l'éducation religieuse qu'il a constituée, qu'il a socialisée. Mais on voit comment donc, se crée quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'ai appelé le « fuck you style ». Le style « fuck you », le style « allez vous faire foutre, je vous emmerde ». Ce n'est pas la peine que je le dise. Il suffit que vous me voyez. Il suffit que je marche dans la rue de Los Angeles, de Londres, de Paris et j'emmerde tout le monde. Il y a aujourd'hui des images, vous pourrez les voir sur Internet, hein, vous allez voir, vous tapez Alina, l'Institut National de l'Audiovisuel, vous tapez Punk sur le site de l'INA, vous allez voir, il y a plein de petits reportages des années 70, 80, plutôt 80. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le regard des gens dans la rue qui se retournent sur le punk qui est suivi par la caméra. Mais c'est arrêter le regard, mais au sens, c'est même plus qu'arrêter le regard, c'est arrêter le corps. Les gens s'arrêtent de marcher et ils suivent ces gens et ils sont stupéfaits. Et on en voit un qui est à Nice, elles sont, ah oui, donc, au bord de la mer, là, et on voit une succession de mamies qui s'arrêtent les unes après les autres, mais ce n'est pas un montage, hein, on voit vraiment que là, elles, sont, elles, elles n'y croient pas, elles n'en croient pas leurs yeux. Et pourtant, par rapport à ce que je vous montre, c'est des punks cool, enfin des punks déjà normalisés. Voilà une amie également parisienne. Et puis, vous voyez, donc, ça c'est une photo très récente, les punks galeries, ça peut devenir aussi quelque chose qui se... qui s'institue dans une panoplie complètement ordinaire aujourd'hui. Hein, donc on a 40 ans de jeu. Alors j'avance. Hein, l'idée, du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui trouble ? Et là, je vais basculer sur une conséquence pour moi de ces pratiques transgressives d'il y a 40 ans et de leur effet 20 ans plus tard. Ouais, donc 75, 77, Jim Ward, les Sex Pistols, on va basculer de 20 ans, on revient aux États-Unis, mais cette fois-ci non plus sur la côte ouest, mais dans l'Arizona. Et je parle, je regarde à serrer des Américaines, donc je fais très attention à ma géographie. Alors, je pars à l'envers. Et on va avoir arrivé, justement, des choses nouvelles. Alors là, vous voyez des choses nouvelles. Alors, je parle des piercings, bien sûr. Des piercings qui vont être de plus en plus larges, de plus en plus distendus, que ce soit au niveau des oreilles, que ce soit au niveau du nez. Et puis, vous avez des choses, vous avez des petites bosses, là. Ce sont des implants. Les implants, donc, ces objets qui sont placés sous la peau. Et ça, ces implants, alors, sont créés. Vous voyez, alors là aussi, c'est la même personne. Hein. C'est la même personne quelques années plus tard. Vous voyez, donc là, il y a des trous très importants, des bijoux qui ont été portés sur les côtés, mais il va continuer à l'utiliser autrement, ces trous. Par exemple, en enchaînant, comme ça, des ports de petits anneaux, en utilisant les trous qui sont là. Donc, ça vous trouble ? Je vois des gens qui froncent les sourcils. On m'a dit que je travaillais sur le bijou ce matin, donc voilà, voici. Je n'ai pas fait ça pour vous troubler, mais vous voyez, quand même, ça interroge. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a un nez qui n'est plus un nez ordinaire. Et c'est plus la petite perle ou le petit diamant qu'on se met au coin du nez quand on est un petit peu transgressif dans le 16e arrondissement. Là, dans le 16e, oui.
Avec un aimant, en fait.
Avec un aimant, en plus. Ouais, en plus, c'est du faux, du coup. Ouais, non, mais je parle pas du faux, là, vous voyez, là, je reste quand même... Bon. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est ? C'est la taille ? Est-ce que c'est la taille des oreilles, là ? Est-ce que c'est le nombre ? Et là, vous avez Rolf Buchholz, qui est un Allemand, qui est aujourd'hui une des personnes qui porte le plus grand nombre de piercings sur le visage, au point qu'il peut à peine fermer la bouche, puisque les lèvres pendent sous le poids des bijoux. Voilà. Alors, est-ce que c'est le nombre qui nous dérange ? Est-ce que c'est le fait qu'en plus, il a les yeux tatoués ? Enfin, oui, on cumule. Hein. Enfin, il cumule. Bon. Et tout ça, en fait, ça se déclenche... Enfin, tout ça. Cette combinaison piercing-implant... se déclenche à partir de 94, où la combinaison des pratiques de modification du corps de type piercing et de l'imaginaire punk va donner ce que va inventer Steve Haworth. Alors, Steve Howard, c'est pas lui. Hein. Steve Howard, c'est l'inventeur des implants. Lui, c'est un de ses copains à qui il a fait une crête. C'est-à-dire, tout simplement, il place une plaque sous la peau. La peau est percée avec un pas de vis et on peut visser ce qu'on veut. Quoi. On visse le bijou qu'on veut. Vous voyez ? Alors, déjà, les punks, avec leurs crêtes, ils étaient un petit peu agaçants. Mais quand on voit des gens qui arrivent avec des crêtes, finalement, à la Mad Max, des vraies crêtes métalliques, ça interroge encore un peu plus. Surtout qu'on peut... On peut jouer, vous allez voir, de différentes manières. Alors là, c'est un implanté qui en implante un autre. Ils se reproduisent entre eux, vous voyez. Culturellement, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est des éléments qui peuvent sembler transgressifs pour un grand nombre de personnes, mais qui tout d'un coup vont prendre du sens dans un groupe et vont se partager, vont devenir désirables au sein du groupe, et puis ça va progressivement sortir du groupe. Alors ça, c'est Sampa. Alors j'ai fait exprès, vous voyez, comme on est quand même avec des professionnels du bijou. Hein. Ça, c'est des choses que Sampa fait lui-même. C'est des objets, des bijoux qu'il va créer lui-même pour modifier son apparence. Le but, c'est pas de mettre tout le temps la même chose, c'est aussi de jouer en fonction des contextes. Vous voyez, là, il a... Donc c'est la même personne, hein, c'est Sampa toujours. Donc, vous voyez, c'est lui qui usine, qui fabrique ses clous, ses bijoux. Voilà un exemple. Hein. Donc vous voyez, c'est très plat pour que ça tienne, et puis c'est vissé, donc normalement ça bouge plus. Enfin, mais ça peut se changer, ça peut s'enlever. Ça c'est des transdermiques, alors c'est pas le même système que ce qu'on a vu précédemment, mais on glisse ça sous la peau et c'est bon, je suis largement tranquille. Voilà, et ça donne des possibilités. Alors Lucas Pira qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, avec ses implants, cette fois-ci transdermiques sur le devant, et puis on voit pas, mais il a des implants aussi sur la poitrine, et puis il a des implants sur l'avant-bras, donc il y a finalement toute une possibilité de jouer et de porter des bijoux à des endroits où, par exemple, habituellement, on n'en portait pas, ou alors sans qu'ils soient attachés. Plus besoin de porter un bracelet, par exemple, il suffit de d'implanter, où il faut, et il suffit d'un petit implant. Voilà, alors les implants, par exemple, Elsa, donc ça c'est une photo de 2003, hein, elle a trois petits implants sur l'avant-bras, trois étoiles, qui sont les mêmes étoiles que celles qu'elle porte au cou, hein, c'est les mêmes, les étoiles en silicone. Là aussi, donc l'idée, vous voyez, ce qu'on peut produire, c'est une main, c'est un dessus de main, avec un implant de crâne, un implant en silicone, et puis un implant placé sous le tatouage, qui a été fait avant, pour pouvoir implanter et avoir derrière donc ce travail en 3D, hein, un tatouage en relief, puisque la pièce a été faite en cohérence et en reproduisant la forme du tatouage. Donc voilà Rolf, et puis Emilio Gonzalez, c'est le jeu sur les implants, alors aussi les implants transdermiques, subdermiques, c'est assez une photo qui est très esthétisée, vous voyez bien, hein, mais on a là donc Emilio Gonzalez, qui est la personne qui aujourd'hui fait les choses les plus transgressives en termes de transformation de l'apparence, et puis Rolf Buchholz, qu'on a vu tout à l'heure, de face, voilà, c'est bon, avec un certain nombre de parures. Et donc, comme on est un peu serré dans le temps, eh bien, je vous souhaite de nous revoir bientôt dans ce monde troublant des voies de mode, et je vous salue avec mon ami Tiamat, qui est une des patientes d'Emilio Gonzalez, puisque vous pouvez voir que, par exemple, elle a subi une ablation des oreilles et une réassignation du nez, pour que ça corresponde au personnage, en plus des implants, bien sûr, en plus des piercings qui sont là, retirés, mais qu'elle peut porter à différents endroits du corps. Et puis, histoire de vraiment partir sur une note troublante, voilà, je vous laisse avec le premier patient d'Emilio Gonzalez, qui est dans une transformation du type Red Skull, vous voyez, ce personnage des Marvel, là, des super-héros. Voilà. Je vous remercie.